C'est l'heure de Radio Foot International avec la compagnie aérienne Corsair. Corsair vous propose jusqu'à 4 vols par semaine vers Maurice et Paris.
Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bienvenue à l'écoute de Radio Foot International sur RFI pour évoquer comme chaque jour le monde du football et évoquer aujourd'hui la décision d'Antoine Griezmann, épisode 2 d'ailleurs. Le champion du monde quitte les Colchoneros finalement. Il l'a annoncé simplement, sans suspense ni film vidéo, pour révéler sa décision. Mais il reste un prochain épisode. Où signera-t-il? Au Barça, comme l'assurent certains confrères, ou ailleurs? Nous examinerons ces hypothèses. En tout cas, une nouvelle ère s'annonce pour l'Atlético Madrid et son emblématique entraîneur Diego Simeone. Un Zidane peut en cacher un autre au Real Madrid. Dans le sillage de son père, Zizou, revenu aux commandes de l'équipe des Merengues, l'équipe A bien sûr, un des quatre héritiers, Lucas, sera le gardien remplaçant de Thibaut Courtois la saison prochaine. Du moins, le souhaite le papa. Mais le choix de Zinedine Zidane suscite beaucoup de doutes et de critiques en Espagne. Lucas n'a que 21 ans et fort peu d'expérience. Zizou prend-il un risque inutile en pleine reconstruction ? La réforme de la Ligue des Champions fait l'unanimité, ou presque, contre elle. La plupart des clubs français y sont hostiles et préparent leurs réponses concertées, alors que la Ligue allemande vient de s'opposer au projet présenté par l'UEFA. Qui va gagner ce bras de fer et qui va le perdre? Eh bien, pour évoquer ces sujets aujourd'hui, Carlos Bianchi, l'entraîneur, l'ex-entraîneur. Bonjour, Carlos.
Merci, ex. Annie, on dit, merci. Ça,
parfois, on n'est jamais ex dans une profession, mais bon, bonjour, Carlos.
Bonjour à tous.
Vous aimez nous dire que vous êtes retraité, alors on vous croit. Nabil Djellit, bonjour.
Bonjour, Annie, bonjour à tous.
Et puis Naïm Moniol, bonjour,
salut,
Naïm.
Salut, Annie, salut à tous.
Frédéric Suto, de la rédaction.
Bonjour,
bonjour
Annie.
Frédéric. Radio Foot, c'est parti.
He tomado la decisión de irme, de ver otras cosas, de tener otros desafíos. Y nada, muchas gracias por todo, que han sido 5 años. Y nada, solo agradecimiento a todos vosotros. Muchas gracias de corazón y hasta luego.
Il y avait urgence. Hier soir, avant même le dernier match de la Liga, Antoine Griezmann a donc dit adieu, adios, à l'Atlético Madrid et la Afición del Atleti aux supporters. Les remerciants, vous venez de l'entendre, dans une courte vidéo sur le site du club et non pas un petit film avec suspense comme on l'avait vu l'an dernier. Remerciant donc tout le monde pour les 5 années incroyables, ponctuées donc par une Ligue Europa, une super Coupe d'Espagne. Il s'en va, écrit Marca ce matin à Madrid. Griezmann franchit le pas, selon le journal catalan Sport, alors que AS estime que Griezmann prend la poudre d'escampette. On s'attendait un peu à ce départ, mais peut-être pas qu'il soit annoncé à une journée de la fin de la Liga, Naïm Moniol.
Non, alors il aurait pu attendre une semaine et le dire à la fin du championnat, mais après c'est une confirmation, c'est pas une annonce. Tout le monde le savait qu'il allait s'en aller, que le départ de Godin a peut-être précipité un peu les choses. Bon, il le fait une semaine de la fin du championnat. L'Atlético n'a plus rien à jouer. Pourquoi il le fait maintenant?
Ils ont déjà joué leur dernier match au Metropolitano.
Ouais, voilà. Peut-être qu'il a attendu de jouer son dernier match à domicile. Ce qui est sûr, c'est qu'il le fait suffisamment tôt pour que le club ait le temps de se retourner, de trouver un attaquant au moins de valeur égale. C'est plutôt correct vis-à-vis de son club. Et puis, voilà, il le fait suffisamment tôt. Et comme je vous le dis, c'est une confirmation, mais pas une annonce, parce qu'on le savait.
Nabil, hein, c'est confirmation. Vous êtes d'accord?
Qu'il allait partir de l'Atlético Madrid. Moi, personnellement, j'avais encore des doutes, quoi. C'est-à-dire que je suivais ça avec attention. J'avais pas d'informations à ce sujet. J'ai vu les échos qui ont été faits par la presse.
Pourquoi vous aviez des doutes?
Bah parce que déjà la saison dernière on avait des doutes. Je veux dire.
Enfin non, l'année dernière il y avait peut-être des certitudes d'ailleurs. On croyait qu'il allait partir.
Ouais, non, même l'année dernière, je savais pas quoi y jouer, très sincèrement. Alors bon, il a fait son choix. Alors évidemment, il y avait des éléments qui permettaient de corroborer son désir de départ, puisqu'on voit que tout le monde a un peu quitté le navire. On va pas revenir sur les noms. Diego Godín, Lucas Hernandez, son ami qui est parti également du côté du Bayern.
Oui, vous avez
des fins de cycle. Non, mais moi, très sincèrement, je restais encore dubitatif parce que je me disais qu'il incarne. Et puis surtout, Annie, rappelons également que l'année dernière, elle a quand même prolongé son contrat avec une plus-value financière assez exceptionnel et puis une déclaration d'amour aux supporters de l'Atlético qui pouvait aussi laisser penser que Antoine Griezmann s'imaginait peut-être comme le Totti entre guillemets, même s'il n'a pas été formé à l'Atlético, mais peut-être que ça pouvait être le maillot de sa vie. Donc c'est pour ça que moi je restais effectivement entre deux.
À une époque où le maillot de sa vie, ouais, ça devient de moins en moins.
Je pense qu'il y a aussi un élément à prendre en compte, c'est que vous l'avez dit tout à l'heure, la presse en parle énormément et pas uniquement sur ces derniers jours. Ça fait plusieurs mois qu'il fait régulièrement la une de Mundo Deportivo ou de Sport où on l'annonce au Barça. Peut-être aussi qu'il y a une volonté du club de dire voilà, clarifie ta situation maintenant et puis pour une fois communique de manière claire, parce que c'est vrai que Griezmann et la communication c'est pas son truc, hein, c'est pas Mbappé, et voilà, il a peut-être pris tout le monde de court sur le timing parce qu'il reste un match, mais peut-être aussi que ça vient du club, que c'est une demande du club.
C'est ce qu'a affirmé aujourd'hui notre confrère Olivier Bossard sur le site de France Football. Il connaît très bien Antoine Griezmann, il a notamment écrit plusieurs articles sur lui concernant le Ballon d'Or quand il était postulant. Il a été le voir à plusieurs reprises et aujourd'hui dans l'après-midi, il a écrit un papier où il explique en fait le timing de la communication et c'est ça en fait, c'est qu'il lui ont demandé de se prononcer rapidement. D'ailleurs, quand on regarde bien, c'est pas si bien préparé que ça hein, visuellement. Hein, je vais pas revenir sur les détails, je vais pas faire l'expression scénique.
C'est noir et blanc.
Je suis pas expert en réalisation,
en communication.
Mais on voit bien que c'est un peu presque fait à l'arrache.
Mm-hmm. Oui, parce que franchement, à aucun moment, il a mis des sentiments.
Non.
Il n'a pas dit, nous avons vécu des moments extraordinaires. Franchement, quand je suis arrivé ici, ça fait 5 ans et on ne comptait pas faire autant de choses. C'est vrai, de gagner autant.
Il dit le minimum.
Donner. C'est pour ça que moi, je le disais à lui, il était très court. Il a dit 3 phrases.
Oui, ça dure à peine 2 minutes.
Mais c'était sûrement quelque chose qu'il fallait le faire, parce que ça, c'était un secret des polychinelles.
Et sans doute que sur la forme, il fallait prendre le contre-pied un petit peu de cette vidéo, de ce film, l'an passé, où vraiment on avait monté tout ça.
Une mise en scène.
Une mise en scène, le suspense.
En fait, c'était la Coupe du Monde.
C'était la suite de son DVD, mais c'était le bonus caché, il fallait rester jusqu'à la fin. Quoi.
Le making-of, finalement je m'en vais.
C'est un peu ça. Alors, est-ce que dans la décision à peser
le départ... La nouvelle décision. La nouvelle décision.
Bueno. En tout cas, est-ce que le départ d'Antoine pour Antoine Griezmann de son ami Diego Godín de cette équipe a pesé? Écoutons lorsqu'il a salué le départ de son ami.
Diego, c'est un grand ami. Je suis tous les jours avec lui, que ça soit au vestiaire ou en dehors des terrains. Et voilà, c'est pour ça que c'est le parrain de ma petite fille. Donc la première fois que j'ai signé à l'Atlético, c'est lui à qui j'ai appelé. Et il m'a parlé en bien du club et c'est ce qui m'a donné envie de signer à l'Atlético.
Diego Godín qui lui a aussi donné envie de savourer le maté hein, quand il va sur les terrains,
oui,
n'est-ce
c'est
pas
ça, oui.
Alejandro, cette boisson sud-américaine
c'est un fanatique,
qu'il a popularisé.
Antoine,
oui.
c'est un fanatique parce qu'il va partout. Antoine, il s'appelle, non?
Ah oui, bien sûr.
Mais je dis, il va partout avec.
Oui, oui. On le voit avec.
Ça, c'est le style uruguayen. Hein.
Totalement. Ou paraguayen.
Non, uruguayen. Uruguayen, l'uruguayen, il va dans le bus, dans le métro.
Mais au Paraguay
partout.
Aussi.
Oui, mais l'Argentin, nous, on boit du maté, mais on ne va pas avec le thermos. Oui, oui.
Ni le Brésilien, d'ailleurs. Non. En tout cas, est-ce que ça peut avoir influencé ou peut-on penser aussi que peut-être Antoine Griezmann a disputé l'année de trop du côté de l'Atlético?
Alors, l'année de trop, je crois
ils
pas.
Ils sont deuxièmes de la Ligue 1, rappelons-le.
Il voulait découvrir le nouveau stade, il a eu une revalorisation salariale, nouveau contrat. Bon, il a tenu ses engagements, c'est une chose. Après, oui, c'est sûr que le départ de Godín, d'Hernandez, de Felipe Luis. Il y a un point d'interrogation. Il y a un point d'interrogation aussi sur l'avenir de Simeone, hein, qu'à un moment donné, va bien s'en aller. Parce que chaque année, on le dit partant, mais ça va bien arriver un jour. Donc je pense qu'Antoine, il a compris qu'à un moment donné, c'était la fin de cycle. Il a vécu une belle période. Il a fait gagner une Coupe d'Europe. Il a fait des finales de Ligue des Champions. Il a franchi un cap individuellement. Parce que quand on marque 133 buts avec une équipe comme l'Atlético, c'est qu'on fait partie des meilleurs joueurs attaquants du monde, en tout cas. Donc ça, c'est une chose. Mais là, il a senti la fin de cycle arriver et il cherche peut-être aussi maintenant à franchir le palier qui est de gagner la Ligue des Champions.
Carlos, est-ce qu'on dispute une année de trop quand on est un joueur ou finalement, de partir, on réfléchit des fois.
Et on se rend compte quand on arrive à la fin, qu'on prend la décision de s'en aller. Oui, parce qu'on ne sait pas avant. C'est l'année de trop, c'est pas l'année de trop. Et...
Mais l'année dernière, on avait eu la sensation qu'il voulait partir, non?
Mais le problème, c'était que l'année dernière aussi, il y avait la Coupe du Monde. Alors lui, il était plus la tête sûrement dans la sélection de France, jouer la Coupe
et
du Monde,
raison, d'ailleurs.
Qui pensait si j'y vais à droite, si j'y vais à gauche, j'y vais au centre, je sais pas.
Là, il va aller à gauche sur le terrain parce qu'à droite, c'est Messi au Barça. On verra, c'est d'ailleurs une vraie question, non?
Non, il va à Barcelone.
Non, mais je veux dire, s'il va à Barcelone ou sur le terrain.
Et sur le terrain?
À gauche ou à droite?
Et ça dépendra. Ça dépendra s'il continue à jouer soirée, s'il continue pas à jouer soirée, s'il faut voir.
Hein. Bon, alors vous brûlez les étapes, mais allons-y. Ouais. Les suppositions, hein, c'est la une de l'équipe aujourd'hui. Si on a bien lu, n'est-ce pas, Frédéric Suto, c'est Messi attend Griezmann. Est-ce qu'il l'attend vraiment? Est-ce qu'il a besoin de lui? Est-ce qu'il arrive une année trop tard?
Il faut le demander à Messi. Parce que le seul qui le sait, c'est lui. Les journalistes, ils peuvent mettre n'importe quoi.
Mais il dira rien, Messi, vous le connaissez.
Mais bien sûr.
Mais attendez, non, mais on va, très sincèrement, autant, moi, je me disais que c'était, j'étais pas persuadé qu'il quitte l'Atlético Madrid, mais autant si vous me demandez maintenant où il va aller, là, par contre, je peux plus facilement prononcer, quoi. Je veux dire, il y a un moment, il y a deux destinations possibles. Il y en a une à 95%, et il y en a une qui reste à 5%. Et on sait très bien que celle qui a 95%, c'est le FC Barcelone, puisque ça devait être déjà la destination de la saison dernière.
Mais justement, un an a passé, est-ce que le FC Barcelone est toujours intéressé par Griezmann?
Bien sûr. Évidemment, ils viennent de... Attendez.
Non, mais il y a d'autres joueurs, peut-être, sur le marché.
Oui, mais il y a peut-être d'autres joueurs qui vont partir du côté du FC Barcelone, qui ont été recrutés, qui n'ont pas été à la hauteur. Dembélé et Coutinho, par exemple, et peut-être plus Coutinho que Dembélé.
Suarez et Messi, ils sont... Un an de plus, tous les deux.
Bien sûr.
Et Griezmann, il est plus jeune qu'eux.
Il a 28 ans.
Et c'est pour ça. Ouais, il y a 4 mois.
C'est aussi pour ça qu'il est temps qu'il quitte l'Atlético de Madrid s'il doit quitter ce club. Hein, les années passent aussi pour Antoine.
Mais autant il peut aller au FC Barcelone et se mettre entre guillemets au service de Messi, autant je le vois pas venir au Paris Saint-Germain et se mettre au service d'Mbappé, avec qui il est déjà en concurrence en équipe de France. Enfin, je veux dire, il y a un moment.
Non, mais de toute façon, le projet de quitter l'Espagne est presque pas envisageable chez Griezmann parce que au-delà du jeu, c'est surtout sa vie de famille, c'est que sa femme veut pas quitter l'Espagne, il est très implanté là-bas. Griezmann, il est espagnol, hein, ça va passer comme Messi, hein. Messi, il arrive en arrière.
Il est de Macon, non?
Oui, il est de Macon, mais il est arrivé en Espagne, il avait 13 ans, il a été formé en Espagne, il joue en Espagne, il parle espagnol,
au début,
il vit espagnol, voilà.
Il parle français avec l'accent espagnol, vous vous souvenez quand il était à la Real Sociedad?
Il vit à l'espagnol, il veut pas quitter le pays. Je pense qu'en plus que son profil de joueur, même s'il est très bon et qu'il marquerait des buts partout, son profil de joueur est fait pour l'Espagne. Donc le PSG, on entend se positionner dès qu'un joueur est bon et libre, ou plus ou moins libre,
le PSG, tu le mets où? PSG.
À Barcelone.
C'est ça la question.
À Paris Saint-Germain, où tu le mets?
Ah, bah là, il peut aller à droite, dans un 4-3-3.
Oui.
Il peut jouer comme dans sa position du côté de l'Atlético. C'est au FC Barcelone, la vraie question. Où est-ce qu'il va jouer, FC Barcelone?
Du côté gauche, tu dis, mais il peut jouer aussi
jouer à droite, il peut jouer avant-centre, il peut même jouer en espèce de 10 dans un 4-2-3.
Pas le buteur qui va vous mettre 35 buts par saison, hein, Antoine Griezmann. Pas. Il va pas
pourquoi
remplacer
pas,
Luis
avec un mec comme qui était fil de caviar, comme Messi. Attention que Messi, c'est l'année qu'il a filé plus de caviar cette année, hein.
Il met pas 35 buts parce qu'il est dans une équipe où c'est l'arme offensive numéro 1 et où quand à la perte du ballon, il doit faire 10 km pour le rattraper. Dans une équipe comme le Barça avec pléthore de talents offensifs autour de lui, où l'équipe va quand même avoir un peu plus de maîtrise que l'Atlético, il peut les mettre les buts, hein.
Mais Carlos,
tout ça dépendra de si Suarez il continue ou pas, parce que Suarez
il a 32 ans lui.
32 ans, mais non, il est questionné, alors c'est là le problème.
Mais Carlos, est-ce que ça sera rapide de se fondre dans le jeu du FC Barcelone pour Antoine Griezmann?
Je pense que ça va être plus rapide que s'il va à Murcia. Parce qu'un Moussia,
non,
je
non,
sais
mais
pas
on connaît. Qui... Non, non, mais vous
lui, il va donner valeur, lui, il va les.
Non,
les...
mais je vous pose la question sérieusement oui. Parce qu'on connaît le FC Barcelone. On voit certains joueurs qui ont du mal à s'adapter à ce jeu en triangle.
Mais tu sais quoi mais non, mais
alors,
ça, la
c'est
question,
vrai
c'est
qu'on les... le joue moins aussi.
Allez, les grands joueurs, ils se retrouvent toujours. C'est comme ça.
Parce ben, que Coutinho est un grand joueur,
tu
mais
caviar, pas te files en caviar. Mais si tu vas dans une équipe et qu'il n'y a pas de grands joueurs, tu files en caviar et tu rends un pamplemousse. Comprends ce que je dis? Alors, le problème, il est là. Lui, il va se trouver avec des joueurs de son niveau.
Non, mais c'est le plus important. Griezmann, c'est quand même un sacré technicien.
Ouais. Oui,
il a quand même, il a quand même plus de chances de s'intégrer dans le jeu du Barça que Dembélé, quoi.
Coutinho, je suis désolé, cette saison, on a l'impression qu'il s'est pas bien intégré. Et c'est pour ça que je pose la question.
Après, il est compatible. Non, mais moi, enfin, je veux dire qu'il soit compatible. C'est un joueur qui est extrêmement intelligent. Il y a pas de souci.
Non, je m'interroge sur le temps qu'il mettra à être.
Bah, il y aura certainement un temps d'adaptation. Mais quand vous jouez avec des joueurs aussi doués techniquement, qui sont des manieurs de ballon incroyables, et en plus lui joue souvent en première intention, il est intelligent, il peut jouer comme 10, il peut jouer comme attaquant. Moi, j'ai pas trop de soucis à ce niveau-là. Non. Moi, ma question, encore une fois, c'est de savoir, parce que à l'Atlético de Madrid, les ballons passent par lui. Alors, il va moins défendre au Barça, mais bon, ça, c'est autre chose, encore qu'il faut défendre. Mais le circuit préférentiel, c'est lui, à l'Atlético Madrid. Là, la différence, c'est que le premier joueur qu'on va chercher, c'est on sait tout ce qu'il sait. Mm-hmm. Donc, c'est ça aussi le changement. Il y aura un changement culturel à ce niveau-là. Pour Antoine Griezmann, c'est ça qui m'intéresse.
Ouais, mais... C'est lui qui il faut qu'il ouvre son jeu peut-être. Il se mette peut-être plus un finisseur. C'est lui qui
démarre. Ouais, c'est vrai.
Il se met peut-être au service de Messi. Oui. Mais dans le bon sens, parce que Messi, quand il va le trouver, il va le trouver.
Pour quand même non, mais ils vont
de
se
toute
trouver,
façon, j'imagine, Carlos, que quand vous dites se mettre au service de Messi, pour un joueur, c'est un plaisir, c'est pas une contrainte.
Parce que c'est quelqu'un qui n'est pas égoïste,
justement.
Qui joue pas pour
justement.
Lui. Il joue pour l'équipe, vraiment, et il marque des buts, mais il fait marquer aussi.
C'est pas une soumission, c'est une vraie collaboration.
C'est un plaisir. C'est un plaisir.
Et puis...
Non, c'est pour éclaircir.
Non, mais parce que c'est une nouvelle. Non, mais vous avez raison d'appuyer là-dessus, parce que moi j'en ai marre des trucs genre, oh, c'est le vassal, oh, c'est le lieutenant.
Bah,
oh,
quand Neymar est parti.
Mais si, il laisse frapper les pénalties à Suarez.
Mais quand Neymar est parti.
Il laisse frapper les pénalties à Suarez.
Quand Neymar est parti du Real, du Barça, on disait, oui, il est parti pour s'émanciper, parce qu'il en avait assez d'être dans l'ombre.
Mais ça, c'était la version officielle aussi.
Oui, non, mais c'est pour ça.
Non, mais pareil pour Benzema avec Ronaldo. On a l'impression que
Neymar est peut-être plus égoïste qu'Antoine
Griezmann. Il y a quelque chose. Il faut respecter, c'est des grands joueurs.
Il y a quelque chose qu'il faut dire aussi avec Antoine Griezmann, c'est que en équipe de France, il a connu le fait de ne pas être le circuit préférentiel quand il a évolué avec Benzema et même avec l'explosion d'Mbappé. Mais c'est un garçon qui est très intelligent, qui n'hésite pas à décrocher, à venir jouer dans le cœur du jeu, à toucher beaucoup de ballons. La vraie particularité, c'est que Griezmann aime toucher le ballon. C'est à des types qui aiment bien jouer devant, alors qui sont pas forcément égoïstes, qui vont faire des passes, mais qui sont pas forcément des porteurs de ballon. Alors que Griezmann, il aime toucher le ballon, il va décrocher, il va s'adapter. Moi, je suis absolument pas inquiet
et
là-dessus.
Tu sais quoi, lui, il a une grosse qualité.
Ouais.
Les 5 années d'Atlético Madrid, il en a pris à souffrir comme attaquant. Parce que nous, attaquants, on est attaquants au départ. Et on dit, ah non, je vais cavaler derrière. Non, parce que les autres, il faut qu'ils bossent pour récupérer le ballon. Moi, c'est pour finir. C'est comme ça l'attaquant qui réfléchit. Mais lui, ces 5 années-là, il perdait le ballon, il savait très bien qu'il devait revenir au milieu de terrain,
participer
à la récupération du ballon, à la reconstruction du jeu, etc., etc.
Et on se souvient qu'au début même, hein, il avait eu quelques phrases où il disait que c'était dur et que c'était lourd. Hein,
Simeone l'avait un petit peu taclé sur la première saison, c'était difficile, mais c'est un énorme bosseur Antoine Griezmann. En plus d'avoir beaucoup de talent, balle au pied, c'est un vrai bosseur, c'est un bûcheur.
Non mais c'est fantastique en tout cas de le voir.
Et les 3 attaquants de la sélection de France, c'est lui qui bosse le plus.
Ouais.
Frédéric.
Non, on parlait de la sélection, de l'Atlético de Madrid, Diego Simeone. Ouais. Ils vont perdre énormément avec le départ d'Antoine Griezmann. Il va falloir se reconstruire pour ce club est derrière le Real Barcelone. Et c'est bien pour ça qu'il part, Antoine Griezmann. Bah, se rend compte qu'il n'a pas réussi à gagner le championnat depuis qu'il est arrivé à l'Atlético.
Ils sont devant
la
Real,
Ligue des Champions, la perd contre le Real. Oui, cette année, ils sont deuxième.
Mm-hmm. Il parle de Dybala,
le cycle arrive à sa fin.
Si le Barça paye la clause, c'est 120 millions, ça fait quand même un peu d'argent pour recruter. Bon, Alors,
puis attends, c'est surtout le salaire de Griezmann qui pesait lourd également. La charge salariale.
20 millions par an, hein.
Parce que 20 millions par an sur 4 ans, chargé, mais c'est énorme. Je veux dire.
Il paraît qu'il serait même prêt à réduire un peu son salaire du côté du Barça. Ce qui est intéressant, c'est que les supporters du Barça avaient assez mal interprété sa décision l'année dernière. Mmh. Et les journaux de Catalogne, à savoir Mundo Deportivo et Sport, ont fait des sondages sur leur site. Alors, ça vaut ce que ça vaut, bien sûr. Mais en demandant aux supporters ce qu'ils en pensaient, et à 52 ou 62%, ils étaient contre l'arrivée de Griezmann, justement, à cause de cette déconvenue. Bon.
Le supporter, il est comme ça.
L'autre
jour,
c'est ça.
L'autre jour, ils l'ont insulté certains, ils ont insulté Messi.
Il a été sifflé au Camp Nou récemment.
Mais ils sont sifflés ou ils sont insultés à Messi, certains supporters. Avec tout ce qu'il a fait, Messi, pour le Barcelone. Que le jour que Messi s'en aille, Barcelone, il ne sera plus le même.
Moi, je suis d'accord. Ouais.
C'est mais fini, c'est...
Évidemment.
De Barcelone, on parlera s'il découvre un Cruyff ou un Messi encore. Mais de Cruyff et Messi, c'est tous les 30 ans.
Il y avait eu un moment, une rumeur, vous vous souvenez, oui. pas l'année dernière, donc on le voyait aller au Barça, mais il y a 2 ans, c'était à Manchester United,
oui,
où il avait aussi envie peut-être d'aller en Premier League.
C'est vrai.
Complètement arrayé des possibilités.
Arrayé, pas à 100%. Je pense, moi, à la limite, la Premier League plus que le Paris Saint-Germain, parce qu'ils ont la surface et l'épaisseur financière pour l'attirer. En termes de même d'image, dimension marketing, c'est évidemment un championnat qui peut lui correspondre. Manchester United, à l'époque, on voulait l'associer en attaque à Zlatan Ibrahimovic. On voulait le faire tourner autour de Zlatan Ibrahimovic. Et c'est vrai qu'il y avait eu des contacts et que ça aurait pu évidemment se faire. Mais aujourd'hui, après, c'est les besoins, Annie. Ça va très vite.
Ouais,
à Manchester City, ils n'ont pas besoin de lui. Il y a déjà tellement de monde. Ensuite, Chelsea ne peuvent pas recruter.
Non,
Manchester
là,
United. Ils ne sont pas en Ligue des Champions. Arsenal, ça paraît être un degré moindre. Et Tottenham, je pense pas que financièrement ils aient envie d'investir autant sur Griezmann.
Tous les chemins mènent au Camp Nou.
Après Liverpool, il y a Mohamed Salah.
On va voir ça. En tout cas, vous l'évoquiez, Frédéric, c'est les Colchoneros, c'est un peu la débandade là, parce que Lucas Hernandez avait déjà annoncé il part du côté du Bayern. Ensuite, on a Diego Godin qui a dit qu'il partait. Apparemment, Juanfran aussi. Griezmann, ouais. Philippe Luis, le Brésilien, qui partirait aussi.
Mais ils ont pris un coup sur la tête en Ligue des Champions cette année, et ça a peut-être même joué dans la décision d'Antoine
Griezmann.
En huitième de finale, après avoir gagné le match aller face à la Juve 2-0.
On se souvient que Simeone devait aller vendre des melons, c'est
et
ça.
Et les trois buts de Ronaldo au retour. Hein. Attention.
Après, la Juventus de Turin, on n'en parle pas, mais eux, par exemple, enfin, je veux dire, même si je pense qu'il va signer au FC Barcelone, concrètement, si Dybala s'en va, ils peuvent le remplacer par Griezmann. Je veux dire, ils pourraient, en termes de puissance financière et même en termes d'ambition. Quoi.
Oui, mais je ne le vois pas, Griezmann,
non, il
jouer
ira pas.
Pour Ronaldo.
Ah, tu sais ce qu'a fait l'Atlético Madrid,
tu sais. Non, parce que
vous auriez joué pour Ronaldo, vous, Carlos?
Mais non, oui, mais ça, moi j'étais avant-centre. Benzema, il pouvait le faire, mais moi non. Comme Higuaín. Benzema, il a resté parce que c'était le président de Real Madrid qui l'avait acheté. Et à Higuaín, c'était pas le président qui l'avait acheté. C'est pour ça que Benzema, qui le rendait des services à Ronaldo, il a resté. C'est pas parce qu'il était meilleur buteur que Higuaín.
Oui.
Parce qu'Higuaín, c'était meilleur buteur que Benzema.
Plus finisseur.
Oui, buteur.
Mais pour en revenir à l'Atlético Madrid, parce que ce qu'ils ont fait, c'est exceptionnel. Sur une aussi longue période, 5, 6, 7 ans, conserver des joueurs du calibre, d'abord de Costa, de Griezmann, de Godin, de Felipe Luis, de Coque, de Niguez. Il y a eu Thiago, il y a eu Gabi. Ils ont Oblak. Ce qu'ils arrivent à faire depuis autant d'années, et même conserver Simeone, qui est aujourd'hui un des meilleurs entraîneurs du monde et qui serait pisté par tous les clubs avec suffisamment d'argent.
Il y a une offre du PSG
qu'il avait refusé. Deux finales de Ligue des Champions perdues.
Ce que l'Atlético a fait, c'est monstrueux. Hein. C'est une fin de cycle qui, comme dans tous les clubs, va peut-être avoir une, deux années de transition pour redémarrer. Mais des cycles qui durent aussi longtemps avec autant de régularité, de résultats et de finales, c'est quand même très rare.
Dans le top 3 de la Liga.
Ah bah largement.
Et même, ils avaient remporté le titre.
Ils ont été champions en 2013. Il y a quand même 4 finales européennes sur les dernières années. C'est très
ils vont se reconstruire. Et puis, ils ont surtout un club qui est solide et qui a une institution. Et ils
maintenant,
ont un directeur sportif, Andrea Berta, qui est quand même quelqu'un qui travaille bien. Autant, effectivement, je suis d'accord, survivre à un départ de Messi pour le FC Barcelone, ça va être compliqué. Survivre à un départ de Ronaldo pour le Real de Madrid, ça a été compliqué cette année, mais on sent que ils vont quand même pouvoir se reconstruire autrement. Je pense qu'on peut survivre. Enfin, après, c'est mon sentiment et mon opinion. Je pense qu'on peut survivre à un départ d'Antoine Griezmann.
Oui. On parle peut-être de Dybala, on parle aussi de Cavani, non hein, qui
Dybala,
pourrait
Cavani,
avoir envie d'aller du côté de l'Atlético.
Il faudra regarder Nicolas Pepe également, qui pourrait les intéresser.
Si tu vas à Cavani, Atlético, qu'est-ce que tu fais avec Costa?
Costa, il y a Naples qui le veut. Diego Costa,
c'est
Naples.
C'est plus jeune tout ça.
Cavani, c'est 32
Costa,
ans.
Costa, Cavani,
Cavani, 32.
Pas comme ça qu'on reconstruit. Hein.
Oui, les retours ne sont pas toujours très heureux. On se souvient de Fernando Torres, on se souvient de ils reviennent, mais ça dure, c'est évanescent, quoi. Ça dure quelques temps assez courts. On était en Espagne, on va y rester.
Quand je fais débuter Lucas, je fais pas débuter mon fils. Je fais débuter le joueur de la plantilla du Real Madrid. Enfin, même si c'est mon fils, moi je le regarde comme un joueur de plus de cette équipe. Et c'est tout.
Lucas Zidane n'est pas qu'un gardien occasionnel. Lorsqu'il avait débuté sous le maillot des Merengues avec Huesca en Liga, il l'avait fait une année avant contre Villarreal, donc en Liga. Cette fois, c'est son papa Zizou qui le veut et qui le veut comme numéro 2 des gardiens du Real Madrid. Une nouvelle publiée hier matin par Marca et qui fait beaucoup, beaucoup parler du côté de l'Espagne. Jorge Valdano a déclaré qu'il était trop tôt pour le jeune homme qui vient d'avoir 21 ans. Vous le verrez sur les réseaux sociaux, il a fêté son anniversaire en famille, c'était le 13 mai. D'abord, qui est Lucas ? C'est le deuxième des quatre fils de Zinedine et Véronique Zidane. Il est né à Marseille, formé au Real. Il a joué aussi en équipe de France des jeunes depuis le groupe des moins de 16 ans. Champion à l'Euro en 2015 avec les moins de 17 ans. Il a aussi donc deux matchs officiels en Liga. Il a beaucoup joué avec la Castilla. Est-ce que c'est trop tôt, selon vous, Carlos, pour le sélectionner, un gardien qui a 21 ans ?
À moi, avant de te répondre ça, tu sais, ça me fait la peine pour celui qui était trois fois champion d'Europe. Le mettre à la porte
Navas.
De la façon qu'ils le font.
Keylor Navas.
Oui, ça, moi, je te dis la vérité. C'est un manque de respect incroyable. Et la question, c'est que comme le président, il fait tout pour moi. À Real Madrid, ils ont acheté Courtois. Ils l'ont payé assez cher.
Et ils imposent Courtois. Parce qu'on se souvient du premier match de Zidane où Zidane met Keylor Navas, justement.
Mais bien sûr, Courtois était, Courtois était...
C'était son gardien à lui, mais il n'a pas le choix, c'est ça
ouais. C'était comme Benzema et Higuaín. Mmh. Benzema, ouais. C'est lui qui l'avait acheté, le président.
Mais alors
le problème, il est là. Alors, la question, tu vas le savoir s'il est tôt ou il n'est pas tôt.
Non, mais il a 21 ans, il a très peu d'expérience.
C'est pas une histoire d'être tôt ou pas tôt, parce que Casillas, s'il est arrivé dans les buts du Real, il avait 18 ans. Et être une doublure, on parle même pas de lui pour être titulaire, on parlait de doublure. 21 ans, quand t'es doublure, c'est pas tôt. Le problème, c'est que.
La vraie question, c'est quel est le niveau de Lucas Zidane? Est-ce que c'est un futur grand gardien?
Mais en fait, c'est la question, on pose la question, est-ce qu'il a le niveau? Je pense qu'on a déjà un élément de réponse. Moi, je suis pas sûr que ce soit un très grand gardien, Lucas Zidane. C'est qu'à un moment donné, quand on est doublure du Real Madrid, on n'est pas doublure à Strasbourg. Vous êtes doublure de Courtois, vous êtes doublure d'un des 3-4 meilleurs gardiens du monde. Ça veut dire que le jour où il se blesse, où il est suspendu, où il se passe n'importe quoi et que vous devez le remplacer, si vous n'avez pas un niveau proche du sien, mais l'équipe, elle perd en qualité. Et on en a parlé sur les dernières semaines. C'était avec des joueurs de champ, mais c'est le même système en Ligue des Champions. L'apport des bancs de touche, ce qui fait la différence entre une équipe comme Manchester City, par exemple, et une équipe comme Barcelone ou comme autre chose. C'est que vous sortez Courtois, vous mettez Lucas Zidane, vous n'avez pas un gardien à valeur égale. C'est pas possible. Il n'est même pas un cran en dessous. Il est 4, 5, 10 crans en dessous. Et à un moment donné, c'est ça. Est-ce que le gardien, est-ce que le Real Madrid, d'un club du standing du Real Madrid, qui a en plus besoin de se reconstruire et d'avoir des sacrés résultats vu la saison qu'il fait actuellement, est-ce qu'il peut se permettre de prendre un gardien aussi jeune, aussi inexpérimenté et pas forcément de très haut niveau comme doublure? Moi, je suis pas sûr.
Il a la chance, et tu sais quoi, lui, excuse-moi, Annie, qui est la défense du Real Madrid, le plus jeune, il a 30 ans. Qui sont des mecs d'expérience, qui peuvent le gérer, qui peuvent le conseiller s'il arrive le moment. T'as Varane, t'as Marcelo, t'as Ramos, t'as Carvajal, t'as des mecs...
Varane, il n'a pas 30 ans.
Oui, mais il a 10 ans de première division, il était champion du monde, 3 fois champion d'Europe. C'est pas question d'âge, oui. C'est l'expérience.
Mais est-ce qu'on est certain que Zinedine Zidane veut l'imposer en numéro 2? Parce que c'est Marca, hein, le journal, oui, qui a sorti ça hier matin. Mais on a l'impression qu'il y a une lutte d'influence, là, un petit peu, entre le président Florentino Pérez et Zinedine Zidane, qui n'a peut-être pas les coups des franches autant qu'il a bien voulu le dire quand il est revenu.
Est-ce que c'est un deal? Est-ce que c'est un deal entre la direction et Zinedine Zidane de dire je reviens et je mettrai mon fils?
Non, à ce niveau-là, enfin, bon, vu les enjeux, de toute façon, très sincèrement, s'il souhaite que son fils soit gardien, il peut être gardien numéro 1, être prêté et apprendre le métier, prendre du temps de jeu dans une cylindrée moins importante. Enzo avait été prêté par exemple à Lausanne. Je crois qu'il a quand même assez de réseau, excusez-moi, pour trouver éventuellement une solution pour son fils. Et puis quand vous recrutez un Zidane, vous recrutez pas qu'un joueur.
Bon, bah alors pourquoi il voudrait l'imposer comme numéro 2 tout de suite au Real?
Mais moi je suis d'accord avec notre ami. Je suis pas persuadé. Est-ce qu'il l'a déclaré lui?
Non, bah, apparemment effectivement c'est dans des réunions qui se passent au sein de la direction. Mais on dit aussi que la direction préférerait un joueur qui est un Ukrainien.
Lounine.
Voilà, Lounine qui a été prêté. Lui aussi qui a très
peu
joué.
Le profil, encore qu'il a pas trop joué à Leganés, il a fait 4 matchs.
Hein. 20 ans, il a fait 6 matchs apparemment.
Ouais, donc il a fait 4 matchs. Après, vous avez raison, il y a des rapports de force qui peuvent parfois se cristalliser sur des cas. Voilà, et c'est peut-être sur ce cas-là, effectivement, une interrogation. Après, quand on voit aujourd'hui le niveau des deuxièmes gardiens dans les grands clubs européens, Naïm, il a raison.
Mais Keylor Navas n'avait pas du tout envie d'être le numéro 2 de Courtois.
Et Carlos a tout à fait raison, parce que Ramos, Varane et les autres, eux, ce qu'ils voulaient, c'était Navas, parce que c'est avec lui qu'ils ont été à la guerre.
Exactement.
Ils sont gagnés 3 Coupes d'Europe grâce à Navas aussi, parce qu'il a fait des matchs incroyables.
Exactement.
Ouais, bien sûr.
Pas mettre la porte. Moi, je dis, c'est un manque de respect. Tu sais qu'un jour, il y a quelqu'un... Vous savez que les clubs, quand ils jouent un champion,
la Ligue des Champions,
les dirigeants, les dirigeants, ils dînent la veille ensemble, les dirigeants des deux clubs. Et un qui sont participés dans un dîner avec le président de Real Madrid. Le président de Real Madrid a dit, les entraîneurs, il faut les avoir 6 mois et après le virer. Il a dit comme ça. Il faut les avoir 6 mois et après les virer.
Il y a un mépris, quoi, un peu de classe.
Oui, comme disons, c'est moi le patron. Ouais, c'est des patrons d'estance, nous disons.
Et c'est bien, Carlos, parce que le Real est en train de réaliser sa pire saison.
Une de ses pires saisons.
Une de ses pires saisons, peut-être la pire avec la distance
siècle,
voilà, du 21e siècle. Bon, c'est court le 21e siècle, mais c'est quand même 20 ans.
Et tu sais quoi, excusez-moi que je te coupe. Et lui, pour me démontrer qu'il avait du pouvoir, il était chercher l'entraîneur de la sélection d'Espagne. Début de saison, on s'en souvient.
Non, on se souvient très bien de tout le scandale.
Avant la Coupe du Monde.
Moi, ce qui m'étonne dans cette histoire avec tout ce qu'on dit là, c'est que Zinedine Zidane, il est extrêmement intelligent.
Oui.
Et il sait très bien qu'en mettant son fils gardien numéro 2 du Real, il prend un énorme risque pour son fils le jour où ça ne marcherait pas, mais aussi pour lui.
Après, peut-être qu'il estime qu'il a un caractère.
Tout le monde lui tomberait dessus en disant, ben voilà, t'as voulu imposer ton gamin dans l'équipe. Donc ça m'étonne un petit peu, parce que son aîné Enzo, il l'avait fait jouer, il l'a lancé dans le championnat espagnol, mais c'est un joueur de champ, on est fondu entre les gens. C'est le gardien.
Il l'a rapidement retiré aussi. C'est aussi ça, parce qu'il n'avait pas le niveau non plus.
Mais bon, un joueur de champ qui passe à côté de son match, c'est pas la même chose que le gardien qui fait une boulette en mondiovision.
À mon avis, il faut revenir un peu en arrière, à l'époque où Florentino Pérez avait fait les papiers pour acheter Kepa dans le dos de Zidane. Ça, c'était une des raisons fortes pour lesquelles Zidane, d'ailleurs, était parti, ce qui supportait pas que Florentino Pérez fasse ça. Quand on parle des pleins pouvoirs de Zidane, moi, je crois pas que Zidane soit revenu au Real Madrid en disant « si jamais mon fils est pas deuxième gardien, j'y viens pas ». Par contre, je pense que la volonté de vouloir imposer son fils, son choix, c'est de dire au président « c'est moi qui commande, tu m'as fait revenir avec les pleins pouvoirs, j'ai les pleins pouvoirs, je le mets ». Après, tu peux imposer un deuxième gardien, puis le faire jamais jouer dans la saison. Hein. Ça, c'est aussi...
Il y aura un peu de friture sur la ligne entre Florentino Pérez et Zinedine Zidane parce que finalement, depuis qu'il a vu depuis le mois de mars, c'est pas très brillant, les résultats.
C'est pas très brillant, mais en même temps, c'est pas sa saison, quoi. Tu vois, il récupère aussi un bébé malade. Donc,
oui.
Carlos, est-ce que ça ne peut pas desservir aussi, finalement, le fils d'avoir son père comme entraîneur? On se souvient ici tous d'un exemple, c'était celui de Grégory Puel à Nice, qui avait joué...
Grégoire, et Palin aussi. Les deux fils Puel.
Voilà, qui jouaient avec leur père. Et ça s'est très mal passé.
Il a été sifflé.
Et on peut même plus grande, dire mais... ça a écourté sa carrière.
La question, c'est le gamin, le fils, comment il le prend. S'il a les qualités, il n'a pas les qualités, je ne l'ai pas vu jouer.
Ils n'avaient pas les qualités, ils n'ont pas fait une grande carrière derrière, et tous les observateurs étaient d'accord pour dire que Grégoire Puel n'avait pas de niveau pour jouer en Ligue 1. Et d'ailleurs,
il est en Ligue 2, au Gazélec d'Ajaccio.
Voilà, non, mais je veux dire, sans lui manquer de respect.
Ce qu'il y a de beau dans le football, que la vérité, ça passe au rectangle.
Oui, mais Carlos,
c'est la réalité.
Et évidemment, quand il y a un père en plus, que le père s'appelle Zinedine Zidane avec l'aura qu'il a, est-ce que
je crois que c'est lui, il fait ce qu'il fait, de mettre Navas dehors.
Mais ça, on l'oblige à le faire.
Puis Navas n'est pas numéro 2, il veut pas être numéro 2, et il a raison.
C'est aussi ça.
Ah oui. Il a raison, Navas.
Et la question, elle est que, sûrement qu'il doit avoir des confiances. Il doit avoir la confiance de son fils, parce que sinon, il est en train de se flinguer.
Il a du caractère, le fils, là, en question.
Je le connais pas, hein.
Moi, j'ai déjà vu une fois ou deux. Il a aussi brillé, malheureusement. Mais ça, c'est terrible pour tous les gardiens quand vous faites des boulettes, parce que de temps en temps, on sent qu'il est doué balle au pied. C'est-à-dire qu'il doit avoir un bon jeu de pied. On l'a vu de temps en temps tenter quelques facéties qui lui ont coûté cher.
Oui, avec la Castilla.
Mais on sent également un gros caractère. On sent un gros caractère. Et peut-être que Zidane sent chez ce fils en particulier la trempe, le mental, parce que c'est pas que des qualités, mais pour être costaud, justement, vous parliez à juste titre du fait que quand t'es gardien, t'es exposé d'une manière assez incroyable, parce qu'à la moindre boulette, t'es mort dans le film. Peut-être que chez lui, il sent ce grain de folie qui peut lui permettre éventuellement.
On avait vu à l'Euro des moins de 19 ans, demi-finale, il avait sorti 3 tirs au but, ça avait été l'un des héros de cette jeune équipe de France.
Courtois, et comme lui il a dit, parmi les 5-6 premières gardiens du monde, mais cette année il a fait une saison quelconque.
Il a fait une saison quelconque.
Il a fait quelques bêtises qu'il a encaissé des buts.
Sur le potentiel de fond, je te parle.
C'est comme De Gea à Manchester United. Je veux dire, si on te met Diego Godin et Luis Jiménez devant toi, c'est pas Lindelof et Smalling. Ça dépend de la défense aussi.
C'est sûr, mais le truc, là où Zidane peut-être il fait un calcul intelligent, c'est que avec Courtois et son fils, il n'y a pas de problème de hiérarchie. T'as pas le problème du PSG, par exemple. Peut-être aussi que Zidane, il a envie de s'éviter un problème à la mode, c'est la hiérarchie des gardiens, d'avoir deux gros gardiens et de se dire en cours d'année qui je mets numéro 1, qui je mets numéro 2, comment je gère la frustration, machin, tout ça. Peut-être qu'avec ce calcul-là, il n'y a pas de problème.
Mais connaissant Zidane, je pense qu'il va trancher cette histoire. Il va pas laisser passer son nom là quand même dans l'histoire. Hein. C'est sa réputation, c'est sa famille. On sait que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'orgueil et qui est très famille sur les valeurs. Si on commence à attaquer sa famille ou son fils, je pense qu'il va réagir d'une manière ou d'une autre et il va expliquer les choses.
Hein. En tout cas, pour Marca, et bien depuis le 22 décembre 2012, le jour où Mourinho a décidé d'asseoir Iker Casillas sur le banc, ils estiment qu'il y a un problème de gardien qui se répète au Real Madrid. Nous suivrons ce feuilleton aussi.
La Champions League vivra-t-elle une révolution dans 5 ans ? Inacceptable pour la plupart des clubs de Ligue 1 qui ont déjà affirmé leur opposition à une réforme allant dans ce sens.
Moi j'aime bien aussi.
Vous aimez bien Nabil ?
On parlait avec Carlos de Keylor Navas.
Le débat continue, même
qui ne démérite pas, et on se demandait que si Keylor Navas ça vendait pas assez de maillots quelque part, parce que le Real il faut aussi vendre des maillots.
Eh oui, on remet le générique ou on
avec plaisir, allez-y.
Non.
La Champions League vivra-t-elle une révolution dans 5 ans ? Inacceptable pour la plupart des clubs de Ligue 1 qui ont déjà affirmé leur opposition à une réforme allant dans ce sens.
Les dirigeants du football français, ceux de la Ligue 1, étaient en réunion aujourd'hui pour évoquer le sujet qui fâche actuellement à travers l'Europe, la réforme de la Ligue des Champions, cette magnifique compétition, encore plus cette saison où on s'est beaucoup régalé devant certains matchs, et qui doit donc être profondément changée, réformée à partir de 2024. Mais surtout, cette réforme, on va dire, ou ce changement devrait avoir un terrible impact sur tous les championnats européens, puisque la compétition devait se disputer les week-ends, en fait, c'est en train d'évoluer quand même. Ils suivent un peu les pressions, apparemment, les dirigeants européens. Et en échange, bien sûr, de tout cela, eh bien, beaucoup, beaucoup d'argent pour l'UEFA. En tout cas, il y aurait 32 clubs en poule, ce qui est pareil pour l'instant. Mais par contre, ça serait des équipes de 8 par poule, ce qui fait que ça ferait beaucoup plus de matchs.
14 contre 6.
Voilà, pour chaque club.
Beaucoup
et en plus
d'argent.
Ah oui, alors, évidemment. Et 24 clubs automatiquement qualifiés d'une année sur l'autre, c'est-à-dire les trois quarts des équipes, c'est-à-dire qu'il n'y aurait plus vraiment de place ni de suspense pour les autres. Alors, qui porte ce changement ? Eh bien, évidemment, ce sont les grands clubs européens, ceux qui tous les ans veulent ou aimeraient être parmi ces 24. Et il y a notamment la Juventus et d'autres grands clubs. La Ligue, la LFP s'est réunie. Elle vient, en fait, de rendre son verdict. Ouais. Naïm, révélez-nous ce que vous...
Alors,
Alors, votre message.
Communiqué de la LFP, hein, c'est il y a quelques minutes, à l'issue de cette réunion, l'Assemblée Générale de la LFP a voté le rejet du projet de réforme de l'UEFA par 32 voix contre et 3 abstentions. Le foot français s'inquiète des conséquences sportives et économiques. Par ailleurs, le football français a décidé à l'unanimité de présenter à l'UEFA une proposition alternative dans les prochains jours. Donc un contre-projet.
Les Allemands, exactement, en début d'après-midi, eux aussi sont réunis du côté de l'Allemagne et eux aussi ont dit non, massivement. On savait que le Bayern et le Dortmund étaient un petit peu à part, ils se demandaient et tout, mais apparemment, il y a eu l'unanimité du côté de l'Allemagne. On va écouter Christophe Galtier, l'entraîneur de Lille, ceux qui, ce week-end, ont aussi agréablement et festivement commémoré leur qualification pour la Ligue des Champions l'année prochaine, au terme d'une saison incroyable. Écoutons Christophe Galtier évoquer ce projet et je pense qu'il reflète ce que pensent 32 des clubs qui se sont dit contre le projet aujourd'hui.
Déjà que c'est compliqué pour nous dans le football français puisque on n'a que 2 de qualifiés directement. Dans d'autres pays, c'est 4. 3-4. Alors évidemment, c'est lié à nos indices. C'est comme ça. Alors, mais si en plus on passe sur cette réforme en 2024, on ne pourra pas me dire que c'est pas une ligue fermée. Et ça va tuer le football. Le football national va mourir. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui qu'on est tous éblouis? Je parle des matchs de Champions League. C'est la rareté, et c'est l'exception qui fait que si chaque année vous avez des affiches qui sont toujours les mêmes affiches, ça sera, il y aura plus de rareté, il y aura plus d'exception et on va se lasser de cela.
Christophe Galtier résume très très bien la problématique parce que d'abord c'est effectivement on sait que c'est la carotte, que c'est le rêve aussi pour beaucoup d'équipes d'être européennes et pensons même ne serait-ce qu'à la Ligue Europa avec cette année Rennes qui a fait un parcours exceptionnel alors qu'il s'était qualifié en passant difficilement. Il parle de la rareté de l'exception. Quand on a les matchs de poule, souvent on se dit ah il y a encore n'est-ce pas.
Regardez-vous en Espagne, Getafe. Il va jouer la Champions.
Getafe,
que c'est une petite.
Non, regardons l'Ajax.
C'est la sortie de Madrid. C'est un petit quartier.
Carlos, l'Ajax, c'est devenu un petit club, même si c'est un club qui a un palmarès, c'est une histoire et un style de jeu extraordinaire. Et cette année, ils ont fait rêver beaucoup de gens. Alors, est-ce que est-ce que vous pensez que les championnats, d'une façon générale, en Europe, ont raison de se sentir menacés?
Ben évidemment, parce que si les grosses équipes participent à cette ligue fermée, bah forcément ça va appauvrir la qualité des championnats nationaux. La plupart des clubs vont mettre leur équipe B ou A prime dans les championnats, donc les affiches seront moins importantes, donc on va vendre les championnats moins cher, ça fera moins de revenus, donc moins d'argent à redistribuer aux clubs, donc les clubs sont plus pauvres. En fait, la conséquence sportive, elle est surtout économique. Ça va appauvrir les championnats parce que le niveau de jeu va dégringoler de 2-3 étages. Donc ils ont raison, les championnats de se sentir menacés sportivement, économiquement. Et puis vous parliez de Lille. Lille, si ça entrait en vigueur là en 2019-2020, Lille ferait pas la Ligue des Champions. Alors qu'ils sont deuxième du championnat. Par contre, Monaco, qui est quasiment relégable, bah, il le ferait. Vous voyez?
C'est un scandale.
Parce qu'en fait, ça se joue sur l'année d'avant. Donc c'est un système qui est pas clair. En tout cas, proposé comme c'est proposé à l'instant T, c'est pas envisageable. Après, peut-être qu'il va y avoir des modifications d'ici 2024, mais en l'état, c'est pas faisable.
Non, mais c'est pour nos auditeurs, je voulais insister, c'est l'exemple dont on vient de parler. Monaco, 17e de Ligue 1 et qui n'est même pas sûr de se sauver à 2 journées de la fin, Monaco serait qualifié pour la prochaine Ligue des Champions au regard de ses performances des dernières années.
C'est-à-dire protéger ceux qui ont de l'argent.
C'est un football décidé par des technocrates, ils tuent toute émotion.
Mais
c'est
des mecs qui ont jamais frappé un ballon.
Non, mais excusez-moi,
c'est ça le problème.
Je veux pas tomber dans des
raccourcis. C'est des gestionnaires surtout. Parce que c'est l'argent qui les fait rêver.
C'est un produit financier. C'est du foot comme ça pourrait être autre chose, Annie.
Ils sont en double, ils doublent son salaire. Bah, le dirigeant de la FIFA,
il double,
ou de la UEFA, je ne sais pas.
Au lieu de 6 matchs de poule, il y en aurait 14.
Mais c'est une question d'argent. Si c'est une question d'argent, pourquoi eux, ils vont se doubler son salaire?
Non, mais pour les clubs, c'est pour ça que certains grands clubs sont favorables à
il y a un peu d'hypocrisie, c'est que le Paris Saint-Germain, Lyon, Monaco, les gros clubs français, là, il y a eu 3 abstentions.
C'est intéressant de savoir quelles sont les 3 abstentions.
Même en France, les gros cylindrés, elles voient plutôt d'un bon œil cette ligue fermée.
Oui, parce que ça va doubler, tripler leur revenu financier.
Mais pour faire un championnat, t'as besoin de tous. Alors, les autres, il faudrait qu'ils disent Vous voulez jouer la Champions, jouez la Champions.
Mais apparemment, Carlos, l'idée, ça serait presque de créer juste un championnat européen.
Une ligue fermée comme la NBA en basket, voilà. On se retrouve entre soi.
Alors c'est vrai qu'à l'époque de la globalisation, maintenant les enfants même sont supporters du Barça ou d'Arsenal, avant d'être même supporters de l'équipe de leur ville ou du championnat de France. Ça arrive que des enfants maintenant choisissent des clubs européens.
Ouais, et puis ils sont surtout supporters de joueurs, quoi.
Oui.
Je veux dire Messi, Neymar, et puis
Cristiano.
Les suivent, quoi. Cristiano, Mbappé, Griezmann, etc. Donc non, mais ça ressemble à, voilà, on se dirige vers du sport américain, c'est-à-dire une ligue fermée. Je parlais de NBA, c'est un peu l'idée. Moi, je regarde la NBA. Si ça, ils veulent faire de la NBA, c'est une saison régulière qui sert
à
rien.
La NBA, c'est du basket.
Ouais,
hein.
C'est du basket. C'est une saison régulière qui sert à rien. Enfin, j'exagère un peu. C'est-à-dire que tout le monde s'affronte. Les meilleurs, enfin, c'est donc les plus riches, les meilleurs. Et puis à terme, vous savez ce qui se passe, Annie ? À un moment, une franchise rachète une ville, rachète une franchise, et puis ça se trouve, ils vont jouer ailleurs. Ça se trouve, ils vont délocaliser. Tiens. La ville n'est pas assez riche, il n'y a pas assez de population, on prend le maillot, on prend la marque, on prend l'institution, et on déménage à 200 km. Et vous n'êtes pas à l'abri de ça dans 10 ou 15 ans.
Et ce qui est terrible aussi, c'est les conséquences pour les sélections nationales, parce qu'avec une ligue fermée, tu vas bouleverser le calendrier, tu vas avoir des matchs supplémentaires, donc des dates à caler supplémentaires, plus les championnats. C'est pas prévu que les championnats diminuent leur nombre de matchs, il y aura toujours autant d'équipes. Donc tu vas avoir des fenêtres internationales plus courtes, mais avec plus de matchs. C'est-à-dire que sur un rassemblement qui dure 15 jours, au lieu d'avoir 2 matchs, t'en auras 4. Puis au lieu d'avoir 4 rassemblements, t'en auras 2. Donc ça va évidemment impacter les sélections nationales, les compétitions. On vient de créer la Ligue des Nations. Quel avenir pour les éliminatoires de l'Euro, de la Coupe du Monde? Donc ça va complètement chambouler, transformer le visage
pour
du
une
football.
Minorité. Rappelons quand même que ceux qui mettent le poids, concrètement, c'est une minorité. C'est important quand même à rappeler, parce que la grande partie du monde du football n'en veut pas.
Bah oui, 24 clubs qui apparemment veulent pousser à ça. Mais est-ce que le projet n'est pas déjà très avancé, Nabil?
De toute façon, regardez, Annie, la Ligue des Champions, au final, sans hypocrisie, c'est toujours les mêmes qui reviennent, globalement. Je veux dire, c'est toujours les plus forts et les plus riches qui reviennent. Je veux dire, c'est toujours le championnat d'Angleterre, le championnat d'Espagne. Je veux dire, c'est l'économie du football qui est au rendez-vous à chaque fois. Alors, il y a des belles histoires de temps en temps. Et c'est d'ailleurs pourquoi, c'est pour ça qu'on s'émeut énormément. C'est pour ça qu'on a pris du plaisir cette année avec l'Ajax, avec Rennes.
Tottenham.
Tottenham, encore que.
Tottenham, pas, oui, c'est le
pauvre. C'est bien, mais enfin, ils sont pas payés. Enfin, ça va, je veux dire, ils ont plus d'argent qu'on ne pense.
Il y a 5 clubs qui sont à un budget beaucoup plus grand qu'eux.
C'est vrai. Donc, c'est ça. Je veux dire, quelque part, c'est déjà en place de manière informelle. Je veux dire, concrètement, on parle toujours des mêmes. C'est toujours les mêmes qui sont à l'arrivée. Et quand vous voulez ouvrir la bouteille, comme Paris Saint-Germain ou Manchester City, on vous met des bâtons dans les roues. Voilà.
Mais qu'est-ce qui fait rêver le supporter de Saint-Etienne aujourd'hui? C'est le championnat de France et la qualification peut-être pour la Ligue des Champions ou la Ligue Europa via le championnat.
Ouais.
C'est ce qui tient en haleine les supporters tout au long de la saison.
Exactement, et c'est la déception du côté de Marseille où on ne disputera aucune coupe européenne.
Concrètement, si les ligues elles refusent, je veux dire, ça va être retoqué. Mais la crainte, c'est que les clubs et les gros clubs fassent cavalier seul. C'est ça la crainte pour l'UEFA.
Mais combien de grands clubs il y a? Il peut être les grands clubs d'Angleterre, de l'Espagne.
Mais les Anglais gagnent plus d'argent en restant dans leur championnat qu'en s'exportant, ce qui est plutôt la bonne nouvelle, parce que les Anglais n'ont pas intérêt à quitter forcément leur championnat.
On les a peu entendus sur ça pour
l'instant. Et qui est-ce qui bouge là alors? Parce que les Allemands n'y veulent pas. Deux clubs d'Allemagne.
Bayern, Dortmund, Juve.
Mais Carlos, le problème, c'est la différence entre les ligues. On voit la Ligue de football professionnel française, la Liga de Tevas, la Ligue allemande, et puis les clubs qui, eux, malgré tout, c'est ça, ils peuvent... Là, on voit qu'il y en a 3 qui se sont abstenus. On peut à peu près imaginer que c'est PSG, Lyon et Monaco.
Oui.
Ça veut dire qu'eux, ils peuvent presque faire cavalier seul et sortir, je dis pas du championnat, ils seront obligés de le disputer, mais de rentrer
ça,
dans cette ligue.
C'est pour ça que en l'état, c'est pas faisable. C'est pas faisable pour les championnats. Maintenant, s'il y a un contre-projet des ligues pour permettre, par exemple, que les clubs des championnats qui participent à cette ligue fermée redistribuent une partie des bénéfices au championnat ou à la ligue, pas parce que forcément, si on vend un championnat 800 millions avec une équipe du PSG qui est au top et que demain le PSG met son équipe B et que le championnat vous le vendez plus de 600 millions, ça fait 200 millions d'écart. Donc peut-être qu'il va trouver une espèce de terrain d'entente économique. Voilà, c'est peut-être ça le contre-projet.
C'est ça le contre-projet. On y reviendra demain dans Radio Foot International avec l'un des membres des dirigeants de clubs qui aura participé à cette réunion, à savoir Bernard Caïssot. Benjamin Nivet.
Oui,
respect. A décidé qu'il arrêtait le football. Je voulais juste qu'on lui tire un coup de chapeau.
Évidemment.
42 ans.
Quel joueur?
carton vert.
Belle carrière. Et ben vous savez, Benjamin Nivet, il représente le football dont on parlait et qu'on n'aimerait
c'est
pas voir disparaître.
C'est pour ça que je voulais dire. Exactement, c'est le football. En plus, fidèle à un club, il jouait encore à 3. C'est la fin de ce Radio Foot. Merci beaucoup, messieurs. Merci aussi
merci.
À Laurent Salerno et à Louis Lafargue qui m'ont aidé à préparer l'émission aujourd'hui. Et à demain.
C'était Radio Foot International avec la compagnie aérienne Corsair. Corsair vous propose jusqu'à 4 vols par semaine vers Maurice et Paris. Accent de